Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes en direct avec vous entre 11h et midi pour commenter l'actualité. On vous attend, 0826 300 300. Je pense que plusieurs sujets vont vous faire réagir. En tout cas, hier, c'était le prix de l'énergie qui vous a énormément fait réagir. Ça ne vous étonnera pas, Jean-Luc Touly. Jean-Luc Touly qui est là, président du FRIC, Front Républicain d'Intervention contre la Corruption. Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour. Éric Julie, président fondateur du cabinet de conseil en communication Clay. Bonjour. Et Bertrand Soublet, c'est votre dernière, Bertrand, ancien général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France. Je dis que c'est votre dernière parce que vous quittez la région parisienne pour partir dans le sud-ouest. Et vous avez bien raison, même si on va vous regretter.
Bonjour voilà. Valérie, bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour à vous, voilà, vous avez bien raison. Mais bon, c'est comme ça. Les policiers sont... Un certain nombre de policiers ont été renvoyés en correctionnel. Est-ce que vous êtes choqués? Je vous pose la question, mais je connais déjà votre réponse. Je connais bien mes auditeurs de Sud Radio, mais ça mérite le débat. Le bac menacé par la grève, les profs sont-ils irresponsables? Et puis le sujet des mères voilées pour accompagner les sorties scolaires ressurgit dans l'actualité, puisque un amendement de la loi Blanquer donc, prévoit que ces femmes ne peuvent pas accompagner les sorties scolaires s'il y a des signes distinctifs religieux. Mais on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Vous pouvez également réagir sur le Facebook de l'émission puisqu'on est en direct avec vous. Donc on va commencer peut-être avec Jackie. C'est un coup de cœur.
Sur la radio du rugby, j'adore parler foot.
Voilà. Donc allez-y.
C'est un coup de cœur à l'endroit des jeunes femmes qui vont démarrer la Coupe du Monde de football en France.
Ouais.
Et puis un petit coup de griffe pour les garçons qui les délogent de leur chambre. Alors on dit qu'elles sont contentes parce qu'elles ont un hôtel qui serait plus beau. Mais que ça puisse encore se faire.
Oui, parce qu'il faut expliquer qu'à Clairefontaine, il n'y avait pas assez de place en fait pour deux
c'est
équipes. Donc,
premier arrivé, premier
servi,
on dit non. Mais vous voyez, encore dans certains cas, on considère que le sport masculin a plus d'importance que le sport féminin, alors qu'eux, ils n'ont qu'un match amical à disputer. Voilà. Donc juste un petit coup de griffe, parce que ce n'est pas bien grave, mais ça montre bien que derrière des actes de communication qui tendent à un peu illustrer des évolutions, et les évolutions, elles sont certaines. Là, on se fait attraper en disant, les gars, vous auriez pu aller dormir au Formule 1 du coin. Les filles, on va se concentrer. Les terrains sont à côté.
Formule 1, n'exagérons rien.
Non.
J'exagère, mais tout le monde avait compris, je pense.
Mais moi, j'avais une question. Alors, puisqu'il y a des communicants sur ce plateau, est-ce qu'il n'y a pas une énorme opération de communicants autour de ce football féminin pour lequel il n'y avait pas grand intérêt jusqu'à maintenant? Et là, d'un seul coup, alors TF1 a acheté les droits, va diffuser. On a reçu d'ailleurs Géraldine Maillet. Il y a un documentaire qui est très bien fait sur ces femmes. Mais j'ai l'impression que d'un seul coup, c'est devenu un truc. C'est de la com, là. Non,
d'abord,
Éric Julie.
D'abord, vous savez que c'est de la com, c'est une expression que
je
n'aime pas.
Oui, je sais.
Moi aussi,
deuxième.
Ça ne m'étonne pas des deux communicants.
Deuxièmement, si TF1, qui a un comportement généralement rationnel, a acheté les droits, c'est qu'ils estiment qu'il y a un intérêt.
Mais c'est vrai que ça cartonne
quand
c'est diffusé.
Il ne faut pas croire que c'est TF1 qui crée l'intérêt. TF1 achète parce qu'il y a un intérêt et un intérêt croissant. Dans la population pour ce sport. Je ne rappellerai pas que ce que Thierry Roland, qui était justement l'égérie de TF1 en matière de football, disait du football féminin. Bon, les temps ont changé, je crois que... quand on voit la coupe de la Ligue...
La Ligue des Champions.
Des Champions avec les filles de Lyon. Voilà, donc... Je crois que c'est devenu une réalité.
Allez,
juste un truc, Valérie, quand même. Expliquer la cohésion nationale... Ça passe par la manifestation de tout un tas de signes. Il y a Balandier, qui est un sociologue, qui a parlé de théatrocratie. Ça passe par plein de signes. Les militaires ont de beaux uniformes. Le sport, c'est quelque chose de fédérateur. Et maintenant qu'on défend l'égalité, on s'aperçoit bien que des filles qui portent des valeurs qui nous intéressent en tant que société, eh bien, on le valorise. Et à la différence des garçons, on a énormément de titres à défendre. Et de ce point de vue-là, c'est bien vu des diffuseurs. Ouais. Et ça cartonne en audience. W9 a été une des premières chaînes à miser sur le foot féminin alors que personne n'y croyait. Et ils ont fait des audiences incroyables, ce qui est assez marrant pour M6. Ouais. Qui au départ s'était construit en disant on va faire de la contre-programmation contre ces chaînes qui elles ont les moyens de s'acheter le foot. Elle y est revenue, cette petite chaîne de
W9. Un petit mot, puis on va changer de sujet.
Moi, je ne suis pas très foot ni rugby, mais plutôt tennis donc en ce moment. Mais on voit que depuis des années, le sport féminin, que ce soit dans le tennis, que ce soit même dans le cyclisme, dans le football, dans le rugby maintenant, fait de l'audience. Donc je dis aux hommes, il faudrait peut-être faire attention. Parce que la qualité,
Pourquoi faire attention Oui, c'est-à-dire qu'ils vont être challengés par les femmes.
Beaucoup de cinéma, beaucoup d'argent, etc. Et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous.
D'accord.
Alors que chez les femmes, en général, la qualité est au rendez-vous.
Formidable. Bertrand, votre coup de cœur, coup de gueule?
Alors, je vais vous faire une confidence. Il y a 50 000 raisons d'avoir des coups de gueule dans ce pays.
Ouais.
Et puis, ce matin, j'ai dit, moi, pas coup de gueule. Je pense que il faut que nous soyons positifs et nous ne sommes pas suffisamment positifs dans ce pays. On a toujours tendance à valoriser ce qui est négatif plutôt que ce qui est positif. Donc, ce matin, c'est un coup de cœur. Et il y a quelques jours, le 28 mai, l'Assemblée mondiale de la santé a voté une résolution avec le soutien de la France qui prône une plus grande transparence pour le prix des médicaments, ce qui va entraîner un accès aux soins et aux médicaments et à la santé bien supérieur en France et dans le monde. Alors évidemment, cette résolution est finalement moins ambitieuse qu'elle l'avait été au départ parce qu'il y a eu quelques pressions de pays pour qu'elle soit beaucoup plus souple. Mais en tout cas, tous les laboratoires pharmaceutiques sont appelés à une plus grande transparence, notamment sur le prix des essais cliniques qui ont un impact sur le prix des médicaments. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour la France et pour le monde. Et je crois que la France ferait bien de s'emparer de ce combat, qui est un combat noble, de progrès, à la fois pour notre pays, mais pour le monde entier.
Je rajouterais quelque chose, c'est que les élus européens qui viennent d'être désignés devraient faire attention justement aux lobbyistes très importants qui est au Parlement de Bruxelles, et notamment dans ce secteur des laboratoires pharmaceutiques.
Gérard nous dit, mais elles sont manipulées, les joueuses de foot, toutes ont répondu en cœur ce qu'on leur a dit de dire, l'essentiel c'est d'avoir les terrains, elles ne protestent pas de leur évacuation. Cédric nous dit, tempête dans un verre d'eau, même la sélectionneuse de l'équipe de foot féminine dit qu'il n'y a pas de polémique à avoir, sauf pour votre invité en plateau a le buzz. Non, c'est pas le buzz, Cédric, on débat, on discute, on a chacun des opinions et des expressions.
Merci Cédric d'avoir contribué au buzz.
Différentes, voilà, vous contribuez au buzz, mais Cédric, c'est un bon, il aime bien le buzz. Jackie, je me tourne vers, je suis perturbée. C'est Jean-Luc.
On reste dans le sport parce que ce que je veux mettre en lumière, c'est quelque chose que j'ai appris d'ailleurs par un vice-président LR du Conseil régional d'Île-de-France sur le rôle joué par une personne qui est la grande responsable de l'Agence française de lutte contre le dopage, qui se trouve être la femme du président du CSA, qui pourrait aussi je pourrais le mettre en cause aussi sur l'équité qui est entre toutes les listes, mais bon, c'était pas le sujet. Le sujet, c'est que l'agence de lutte contre le dopage doit déménager de Châtenay-Malabry d'ici la fin de l'année vers une ville de l'Essonne. Ce qui avait été prévu au départ, c'était la ville d'Évry. Visiblement, la ville d'Évry n'est quelque chose qui n'est pas supporté par cette femme, donc Dominique Laurent. Et donc, elle veut l'installer à Orsay. Pour faire très simple, le scandale, c'est qu'à Orsay, il y a un bâtiment effectivement très important qui leur est dédié, sauf qu'il faut le désamianter. Et que le coût qui va être demandé va être pris sur l'argent public. Alors qu'à Évry, le bâtiment, il est gratuit. Cette femme a une importance, encore plus importante que Valérie Pécresse qui préside le conseil régional et qui veut imposer au gouvernement ce déménagement vers Orsay. Je fais partie de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, dont Orsay fait partie, et je pense que là, il y a des tractations politiques entre La République En Marche et LR, et je trouve qu'au bout du compte encore, c'est les citoyens qui vont payer à travers leurs impôts supplément d'installation.
Je ne connais absolument pas le dossier, donc je pense que c'est quelque chose de compliqué.
C'est beaucoup d'argent public, c'est pour ça que je voulais signaler.
Il y a peut-être d'autres raisons qu'on ne connaît pas.
La personne qui a révélé ça s'appelle Patrick Caram, qui est un des plus grands dirigeants de sport en France, et qui a d'autres activités dans le domaine des Crêtes à l'Orient. Mais on met ça sur la table. Ouais. Une procédure va peut-être être
engagée. On en parlera à ce moment-là quand il y aura la procédure.
Mais vraiment, ce rôle de cette personne qui a un pouvoir phénoménal. Oui, mais on se demande pourquoi.
Le fait de son conjoint, est-ce que c'est utile de préciser qui est son conjoint? Est-ce que ça apporte quelque chose au débat?
Une responsable d'une agence qui a autant de pouvoir, plus importante que Valérie Pécresse, voire plus importante que le gouvernement,
on entend
Roxana Maricianu pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Je trouve que c'est quand même beaucoup.
Si c'est un scandale et s'il y a argent public gaspillé, ça sortira et il y aura une enquête.
On verra.
Éric Julie.
Alors, moi, c'est dans un domaine différent, je puis dire.
Et c'est un coup de cœur aussi. C'est, je pense que le temps, le climat...
Moi, ce n'était pas un coup de cœur. Hein,
vous avez le climat, non, mais par rapport à ce que disaient nos interlocuteurs précédents. C'est l'annonce qui a été faite ce matin que La République En Marche retournait au En Même Temps à travers la nomination d'un comité d'investiture pour les municipales qui comprend à la fois un ancien ministre socialiste qui est élu municipal depuis 1977, donc il est à la fois homme ancien socialiste et élu municipal ancien, et une jeune élue ex-jupéiste, Marie Guévenou, pour fixer, déterminer les investitures aux élections municipales. On voit bien que par là même, il y a la volonté, on voit bien la stratégie que prend le LRM, qui est d'essayer de chasser à droite et à gauche, en même temps, c'est pour ça que
c'est,
la renaissance du en même temps, reste quand même que, c'est, sur le plan électoral, c'est une chose, ce qui serait bien et je pense indispensable, c'est que ce retour du en même temps se traduise aussi dans la politique du gouvernement, avec non seulement une vision libérale de l'économie, mais aussi une recherche de plus de solidarité et de plus d'écologie. Je crois que c'est tout le défi l'acte 2.
Ouais, alors vous appelez ça un coup de cœur, vous ?
Oui, ça c'est...
Bah, c'est un coup de cœur pour moi, chacun, chacun a les coups de cœur qu'il veut.
Allez-y, ouais, bah, non, pour vous,
c'est pas une bonne nouvelle. Je pense que pour un parti qui se considère près des territoires, qu'il y ait un comité d'investiture pour les municipales, je trouve ça très étonnant.
C'est normal.
Parce que tout ne vient pas de Paris. Je suis... voilà. Je crois que ça, c'est de la vieille politique, et puis vous l'avez signalé, parce que quand on est élu depuis...
1977.
Voilà. Voilà,
tout
ça me laisse perplexe et je pense que les Français en ont assez de ces comités d'investiture, de tous ces élus qui sont là depuis 40 ans.
Ça fait un petit peu magouille.
Complètement d'accord. Complètement d'accord.
Non, Jacky, dis quoi ?
C'est une stratégie.
Mais on va dire qu'on se méfie parfois des commissions d'investiture. Ouais. Et de ce point de vue-là, je rejoindrai le message du général Soublet.
Moi, je voulais évoquer Théo. Alors, Théo, ce n'est pas celui dont on a entendu parler il y a quelques années. C'est un jeune autre Théo qui a perdu la vie hier ou avant-hier à Caen. Il a été tué par des coups de fusil. C'était encore une fois à Caen pour un échange de regards avec un groupe de jeunes. Il s'est pris des coups de fusil, un échange de regards. Et trois d'entre eux sont en fuite et sont partis en Algérie. Trois suspects sont entendus, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, qu'il y a un peu un deux poids deux mesures sur des faits divers, hélas, tragiques. Mais je voulais le signaler parce que c'est dramatique.
L'automobiliste qui a été écrasé par un...
Absolument. Par un bus qui n'avait pas d'autorisation de circuler dans Paris. Ça, c'est un truc qui me sidère, moi. J'arrive pas à comprendre comment aujourd'hui... hier, on a évoqué aussi le cas du djihadiste, appelons-le djihadiste, puisqu'il a reconnu son allégeance à Daesh, qui a posé la bombe à la brioche dorée, qui était en situation irrégulière. Pourquoi, quand on lui refuse son visa, il n'est pas reconduit à la frontière ? Enfin, il y a quand même un certain nombre de dysfonctionnements en France qui me laissent un peu pantoise. Vous
hochez
la tête ?
Pour les bus, c'est intéressant parce qu'il y a un changement de réglementation.
Ouais.
Et donc maintenant, ça va être fait au niveau régional, par le syndicat des transports régionaux. Et il y a une période de vide. Et on voit, ça c'est toute l'économie libérale, si je puis dire, c'est qu'on voit qu'immédiatement, il y avait deux transporteurs agréés dans le régime précédent, et il y en a une foison qui se sont mis en activité pour se faire agréer ensuite quand la nouvelle procédure sera en place. Donc il y a un vide, immédiatement, il est rempli par des marchands.
Mais une anecdote, et Bertrand Soublet confirmera peut-être, l'arrivée du beau temps... C'est dévastateur pour les querelles d'automobilistes dans les rues.
Vous
croyez
que c'est le beau temps ou les travaux dans les villes ?
Discuter avec des policiers, vous expliquez que dès qu'il fait beau, c'est incroyable. Il y a un nombre de bagarres, il y a un nombre de morts pour des conneries entre automobilistes. Le beau temps excite les gens. Et alors ça, je ne sais pas si Bertrand pourra confirmer. Moi, un policier m'avait raconté, il m'avait dit « Tu verrais ce qu'on voit dès qu'il commence à faire beau. » C'est assez stupéfiant. Alors,
moi, j'aurais plutôt aucune mis conclusion, sur on le voit quand on circule dans Paris, sur l'énervement quand même des Parisiens devant les travaux, les embouteillages, ce qui se passe, qui est Voltaire,
oui,
est absolument...
Mais ça fait 30 ans que ça dure.
Les bagarres, mais l'exaspération des gens, l'énervement de rester bloqué, etc. Alors prenez le métro, je vous conseille Birakem, qui est la station, qui a un autre coup de gueule, qui est la station du métro de la Tour Eiffel. Quand même, quand on va à la Tour Eiffel en métro, en transport en commun, c'est jonché de détritus. C'est-à-dire qu'il y a des, comme si on avait, et c'est pas comme si, des dizaines, des centaines de kilos de déchets sont là. Donc, très belle image pour la France. Et c'est un problème entre la RATP et la mairie de Paris. C'est ceux qui font le ménage. Mais voilà, c'est une situation qui dure depuis des jours. Tout le monde s'en fout.
Le général qui va dans le sud-ouest, donc là où il fait beau, vous allez retrouver la violence, c'est ça?
Dans le sud-ouest, il fait souvent beau, mais au Pays Basque où je vais, il pleut aussi régulièrement.
C'est pour ça que c'est vert.
Je
voulais
dire. Mais c'est un pays magnifique.
Ah oui.
Voilà. Allez, et Christine Bouillot, qui est journaliste à Toulouse pour Sud Radio, nous dit que le handball féminin cartonne également en audience.
Oui, tout à fait.
Vive le sport féminin.
Le basket et le volley aussi.
Allez, merci à vous. On se retrouve dans un instant en 0826-300-300 pour parler des violences policières, pour parler de ces policiers qui sont renvoyés en correctionnel. On en parle avec vous.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on est en direct pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est cette interview du procureur de la République Rémy Heitz ce matin dans Le Parisien. Il affirme que les policiers mis en cause pour des violences lors de manifestations de gilets jaunes seront renvoyés devant le tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année. Parmi les 174 enquêtes ouvertes pour des violences policières, 57 dossiers sont en cours d'analyse. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est normal que ces policiers soient jugés en correctionnel? Est-ce que ces violences policières sont légitimes? Pour certains, en tout cas, elles le sont. D'autres, vous êtes nombreux à nous dire les policiers en correctionnel, c'est plutôt Castaner qui devrait y être, c'est ce que dit Pat. D'autres nous disent également que c'est peut-être les commandants qu'il faut mettre en cause. Je vous propose d'écouter déjà la réaction de Stanislas Godon, secrétaire général d'Alliance Police.
C'est pas les quelques cas en marge qui vont être mis en lumière, c'est l'ensemble de la police et de ses policiers. Donc ça va poser des problèmes, notamment dans le travail au quotidien, à la fois pour ceux qui gèrent le maintien de l'ordre, mais pour tous les autres, ceux qui font de la sécurité au quotidien. On a jeté des policiers en pâture, à la vindicte populaire ou médiatique, appelons-la comme on veut. C'est très compliqué, c'est un peu le principe du « je t'aime, moi non plus », adulé un jour en 2015. Après, de l'autre côté, attention, messieurs les policiers, vous allez tous passer au tribunal. Est-ce qu'il n'y a pas une instrumentalisation un peu politique dans ce cadre-là? Qualifié de violence, ça veut dire que c'est déjà une condamnation avant l'heure et on se pose des questions sur la garantie de la présomption d'innocence notamment.
Oui. Sacha, un auditeur nous dit « je ne comprends pas comment un procureur peut s'exprimer dans les médias ».
Article 11 du code de procédure pénale. Clairement, qui le lit, il va sur internet, il va comprendre pourquoi le procureur de la République est le seul, pardon mon général, habilité à porter la communication sur des dossiers dès lors qu'il respecte, un, le secret de la procédure, et deux, qu'il n'incite pas à considérer que telle ou telle personne pourrait être coupable.
C'est ça qui est limite dans ses propos de ce matin, où il dit seront renvoyés devant le...
Je répondais à sa question, je ne comprends pas comment il peut le faire dans les médias. Évidemment, il peut le faire dans les médias.
Alors, je voyais, ça vous a énervé, ça. Parce que c'est
typiquement la réaction du syndicaliste responsable.
Il est là pour ça, vous avez été syndicaliste, vous savez comment...
Il faut reconnaître qu'une minorité, peut-être, ont eu des dérives. C'est pas scandaleux. Je suis aussi, on a créé Jaune et Citoyen.
Je rappelle que vous êtes gilet jaune, que vous étiez sur une liste.
On n'a pas voulu, depuis début janvier, manifester. Et en même temps, c'est le cas de le dire, ces manifestations ont permis quand même que l'actualité soit toujours couverte par rapport aux revendications légitimes du 17 novembre. Mais il y a quand même des gilets jaunes qui ont été blessés. Donc, il y a peut-être eu des dérives.
Le mot de mutiler
oui,
est employé.
Absolument. Donc, moi, ça ne me scandalise pas que sur les... Je ne sais pas combien il y a de policiers, plusieurs dizaines de milliers, il y a 174, dont une cinquantaine vont être peut-être jugés. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Et ça ne met pas la police en discrédit. Ouais. Au contraire, les choses.
Ça fait évidemment beaucoup réagir. On a un auditeur qui dit ce qui est limite, c'est que les gilets jaunes ont été condamnés immédiatement. Pour les policiers, c'est pas pareil.
C'est normal.
Ce sont les donneurs d'ordre qui doivent morfler encore un écran de fumée pour quel pays.
Il y a une enquête qui a été menée.
D'abord, la différence de traitement apparent est normale. Dans la mesure où les policiers, d'ailleurs l'expression violence policière est en soi un vrai sujet, les policiers sont chargés d'une mission, ils l'accomplissent. on peut pas comparer, enfin juger de la même manière avec quelqu'un qui est pris en sortant d'un magasin avec des biens volés après avoir détruit une partie du magasin. Forcément, s'agissant d'une, de l'exercice d'une mission, il doit y avoir une enquête plus approfondie pour savoir si ça correspond à des instructions, pour savoir... Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est beaucoup plus compliqué pour les policiers car ils ont la vocation à maintenir l'ordre. Et donc, c'est les cas où il y a manifestement, on s'écarte de cette vocation. Et là, c'est évidemment très difficile à apprécier entre ce qui est peut-être une faute professionnelle parce qu'ils ont été, entre guillemets, un peu loin, et ce qui est une vraie violation de la loi parce que, une violation forte parce qu'ils sont en dehors même des conditions d'exercice du maintien de l'ordre.
C'est le propre de leur fonction, en général.
Ouais, moi j'ai fait ce métier pendant 30 ans et je me suis trouvé dans cette situation-là du côté des policiers et des gendarmes qui sont amenés à exercer la violence légitime. Donc, je suis toujours très étonné des commentaires qui sont faits par des gens qui sont dans des fauteuils, qui n'ont jamais été en situation opérationnelle et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc,
alors, il y a des gens qui étaient dans les manifs, qui témoignent quand même. Je crois qu'on a une auditrice qui va témoigner.
Oui. Non, mais bien sûr. Donc, c'est quand même très compliqué de faire ce métier dans une ambiance opérationnelle où ça crie, où ça gueule, où il y a de la violence, où on est amené à prendre des décisions en moins d'une demi-seconde, quasiment. Donc, ça, c'est le préalable. Mais ça n'excuse pas les fautes de comportement parce qu'il y en a.
Eh ben on va y revenir.
Il y en a, et quand il y a faute de comportement, qu'il y a eu enquête, et que les choses ont été bien mises
sur la table, les policiers doivent être condamnés.
Les policiers doivent être traduits en justice et sanctionnés, justement, au terme de la loi. Moi, ça ne me pose aucune difficulté. Mais il ne faut pas faire de l'amalgame et dire que tous les policiers sont des gens qui sont violents, etc. Tout ça n'a pas de sens.
Allez, on se retrouve dans un instant. 0826-300-300. Les policiers doivent-ils être renvoyés en correctionnel? Les violences policières, est-ce que vous pensez qu'elles seront... pardon?
Quand ils méconnaissent la loi.
C'est parce que vous êtes nombreux aussi à douter du fait que ces instructions iront au bout. On en parle avec vous.
Fait du tort.
0826 300 300, à tout de suite.
Sud Radio, 10h midi. Valérie Expert.
Allez, de retour avec vous sur Sud Radio. Le débat est animé et vous êtes nombreux à vouloir y participer. Les policiers doivent-ils être renvoyés en correctionnel? Seront renvoyés en correctionnel? C'est difficile à formuler parce que c'est ce qu'a affirmé effectivement Rémi Hette ce matin. Ils seront renvoyés devant le tribunal correctionnel. Oui, quand on commet une faute, on doit être renvoyé devant le tribunal correctionnel. Donc, c'est vrai que cette interview est un petit peu curieuse ce matin. On a Janine en ligne avec nous. Bonjour Janine.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ben merci de me permettre de m'exprimer. Alors, je rejoins tout à fait ce qui a été dit auparavant, c'est qu'en effet, toute personne, que ce soit un gilet jaune casseur, en gros, c'est plutôt un casseur qui n'est pas gilet jaune la plupart du temps, ou des policiers qui font des choses répréhensibles doivent être jugés, ce qui est tout à fait normal, quand ils sont là où ils ne devraient pas être. Par contre, ce que j'ai observé en allant moi-même à des manifestations, c'est que y a deux choses. Il y a d'un côté, au début, une manifestation qui est paisible, etc., et qui est aujourd'hui de plus en plus gazée dès le début, dès les premiers pas, et les gens ne peuvent même plus continuer leur marche. Ça, c'est profondément regrettable. Et donc, c'est là qu'on se demande où est l'expression de la démocratie. Et en même temps, on voit deux populations qui s'affrontent, qui vont en fait dans le même sens, parce que j'ai des amis qui sont policiers et la vie d'un policier est très dure. C'est normal, et même ils ont des fois leur vie de famille qui est un peu bousculée à force d'être tout le temps là, voire mise en péril. Hein. Et on se dit, c'est dommage, ils ne devraient pas être là. Ils devraient être avec les gilets jaunes. Et même, j'irai plus loin, le problème des gilets jaunes ne devrait pas se poser sur un avis, comme disait ce matin le professeur en sociologie. En fait, on n'entend pas la colère, les émotions qui montent d'une partie de la population et qui, ça ne va pas s'arrêter. Ça ne s'arrêtera jamais. Alors, c'est dommage, aujourd'hui, on parle de dérapage, etc. Le problème, ce n'est pas ça, le dérapage. C'est pourquoi on en est là. Pourquoi ce n'est pas pris en compte? Pourquoi, une fois de plus, les élections européennes, ça ne nous aide à rien? Et donc, c'est en ça que c'est vraiment dommage.
Vous avez été dans des manifs, vous avez assisté à ce qu'on peut appeler à ce que vous appelez ou ce qu'on peut appeler des violences policières.
Oui. J'ai même eu. J'étais avec mon fils. Mon fils était en train de faire un truc, de livrer un repas. Là, il a laissé son scooter. Bon, forcément, peut-être pas au bon endroit. Hein. Et il s'est fait choper en sortant de l'immeuble. Il a été mis à terre et gazé, etc. Avec une bonne... ils étaient plusieurs sur lui. Hein. C'est dommage. Il y était strictement pour rien, un petit jeune homme de 18 ans. Et en fait, au bout d'un... Ils l'ont pris, je crois, dans le véhicule. Et à un moment, il y en a un qui a dit, je crois qu'on s'est trompé, il était noir. Donc en fait, oui, ils étaient à la recherche de quelqu'un, ils étaient dans leur mission, mais en même temps, le gamin, il était traumatisé, et non seulement ah ouais, ça, mais on lui a dit, écoute, t'as pas intérêt de revenir ici, sinon toi, on te fait la peau, quoi. Enfin, ouais, on l'a ouais, menacé. Bon, ouais, c'est dans le stress, mais c'est dommage. En fait. Ouais. D'accord, c'est une problématique qui ne devrait pas être existée si c'était correctement traité. Voilà, ouais, c'est ce que je dis.
Alors vous êtes aussi nombreux,
là-dedans, c'est très compliqué, les postures sont très difficiles. Ce qu'il faut rappeler, c'est de dire un policier, un gendarme, ça n'est pas un homme politique. Il a une mission. Son boulot, c'est pas de dire oui, par ailleurs, il y a des gens qui sont maltraités par la société, qui sont riches, oui, pauvres, etc. C'est pas son sujet. Au départ, c'est vous avez des gens qui ont décidé de manifester en dehors de tout cadre légal, ce qui est quand même une première dans l'histoire de la République. Je veux dire, vous allez en hors-piste, vous êtes écrasé par 600 tonnes de neige, vous assumez devant votre famille d'avoir tué vos enfants. Je vais être très radical, moi je suis pas homme politique. Voilà ce qui se passe. Et vous avez des hommes et des femmes depuis 7 mois qui sont tenus de faire respecter l'ordre. Que vous ayez des problèmes de fin de mois et tout ça, ça n'est pas leur sujet.
Mais là,
et
donc,
dans des situations, ouais, et je continue ouais, Valérie, dans des situations d'extrême violence, le bilan aujourd'hui, c'est 11 morts. Qui a tué ces 11 personnes? Est-ce que ce sont les anciens collègues du général Soublet? Non. Ce sont des gens qui se sont écrasés eux-mêmes. Ça ne veut pas dire, comme l'a dit Bertrand Soublet, que quand vous avez des gens qui, après enquête, dont c'est le métier, et ils ont tout à fait le droit d'être jugés comme ça, après avoir considéré les preuves, parce que ce n'est pas eux qui sont à l'origine de ces violences-là. Que ces gens-là soient jugés et quand ils abusent, ils soient condamnés, c'est normal, mais on leur doit quand même un minimum. Rendez-vous compte qu'il y a des pompiers qui sont caillassés dans ces manifestations. Est-ce que ça, c'est normal? Et tous ces gens qui défendent l'ordre, ils doivent être vus comme étant dans une situation de combat très difficile. Moi, je fais une proposition aujourd'hui. Je ne suis pas homme politique et j'espère que vous la soutiendrez et que le général soit le premier à la soutenir. Plutôt que de mettre des caméras sur les LBD, vous savez ce qu'on va faire? On va mettre des micros sur les uniformes des gendarmes et des policiers. Et on va se diffuser ce qui se prennent dans la gueule face à des manifestations. Quand il y a des gens qui leur disent d'aller se suicider et que ce sont des gens qui parfois se suicident, est-ce que c'est tolérable qu'ils puissent entendre ça? Est-ce qu'ils ont le droit, avant une manifestation, de s'être pris la tête avec leur ado de fils qui voulait sortir et qu'ils ont dit non? Est-ce qu'ils ont le droit de s'être pris la tête après 8 heures de manif avec leur famille? Ils sont très bien formés. Il faut le considérer comme ça. Et à partir de ça, quand il y a eu enquête, eh bien, on regarde. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que, un, l'État ne doit pas communiquer en direct tant que cette révolte des Gilets jaunes ne s'est pas arrêtée. On ne doit pas jeter en pâture les informations sur les forces de l'ordre et qu'ils soient considérés différemment que ces gens dont Éric Juilly disait que quand ils sortent d'un magasin avec un flacon de parfum, bien on les embarque et c'est comparution immédiate.
Flagrant délit.
Ils ont le droit à ça parce qu'un policier, quand il vous arrête dans la rue, à la différence de certains pays, vous lui filez pas 500 balles pour qu'il vous laisse partir. Il vous contrôle, il vous verbalise si vous avez fait n'importe quoi et si vous n'avez pas fait n'importe quoi, il vous salue, il vous dit madame, merci monsieur, et il vous laisse partir. Mais c'est ça la France.
Éric Juilly. Pardon, décidément j'ai du mal avec Jean-Luc Toulis aujourd'hui, ça fait deux fois. Oui, mais c'est fait... pas... Le problème, c'est c'est difficile de faire des généralités, c'est-à-dire que ce que racontent des gens et des témoins, ce qui s'est passé, c'est des gens qui manifestaient, ce que disait Jeannine, de façon pacifiste, il y a eu des ordres pour... casser ces manifestations.
Mais Valérie, c'est très bien qu'on peut être pris pour un combattant, mais ça, c'est pas de la faute des policiers. Quand vous avez des gaz partout, que vous avez des gens qui jettent des pavés et que vous êtes en train de livrer un frichetti que vous vous retrouvez là, c'est malheureux pour ce gamin.
Jean-Luc nous dit...
Les Black Blocs, c'est ce que cherchent. Je vais pas attaquer les policiers. Moi, je mets la responsabilité sur M. Macron et son gouvernement, qui ont joué le pourrissement. Et donc, nous, une partie des Gilets jaunes, fin décembre, début janvier, on a bien compris que ça allait durer et que, effectivement, les violences arrangeaient les uns les autres, pas les revendications des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'on a voulu se présenter aux élections pour une traduction politique. Mais en même temps, on a échoué. On a totalement échoué parce que, d'abord, au mois de décembre, il y a eu, même si c'est... très peu, mais en même temps, c'est une dizaine de milliards qui ont été concédés, soi-disant, admettons que ça soit vrai, qui fait que, donc, on a la violence a payé quelque part. Et que la traduction politique au niveau des Européennes a montré que ça ne paye pas du tout. Or, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien réglé du tout. On a deux, enfin un extrême, hein, Marine Le Pen, qui est en tête, légèrement devant M. Macron et son équipe. Les autres sont à des années-lumière. Et qu'on n'a toujours pas réglé le problème. Donc ce pourrissement, effectivement, ça peut continuer, ou ça peut s'arrêter, mais ça va reprendre. Parce que c'est pas les municipales qui vont régler le problème non plus.
Non, mais là, vous changez de, vous déviez un peu de sujet.
Mais je ne dévie pas, c'est que effectivement, aux yeux des gilets jaunes, la police est répressive, etc.
Non, parce que ils sont assez mesurés aussi. C'est-à-dire que j'ai un tweet de quelqu'un qui nous dit pas choquant que les policiers soient renvoyés en correctionnel, car quand il y a des moutons noirs, ils doivent être punis. Ces violences discréditent ceux qui font sérieusement leur travail. Le rôle n'est pas de tabasser et de mutiler des manifestants.
Oui,
donc ils font une nuance entre les policiers qui font leur boulot quand il faut le faire, mais visiblement, il y a eu des dérives, et ce sont ces dérives dont on parle.
Dans un climat de violence, pour avoir vu à la télévision un ensemble de ça, dans un climat de violence comme celui qu'il y a eu, en rappelant quand même ce qui a été rappelé, qu'au départ, ces manifestations n'étaient pas autorisées, qu'ils refusaient systématiquement, qu'on était dans un cadre illégal dès le départ, et pas seulement pendant la manifestation, mais dès le départ, c'est inévitable qu'il y ait ce qu'on appelle souvent des bavures, et ces bavures doivent être réprimées. Mais après,
quand ça a été déclaré, il y a aussi eu de la violence.
Après un procès... en bonne et due forme,
une
instruction équitable, et en tenant compte de la difficulté de la mission qui est celle des policiers dans ce contexte, après 7 mois, etc. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je pense que... j'attache de l'importance au vocabulaire, parce que c'est d'ailleurs mon métier. Le premier point, c'est que, encore une fois, c'est force. C'est la force de l'ordre, c'est pas les violences policières. Bon, ce ne sont des violences policières que quand elles sont hors du cadre légal. Deuxièmement, moi j'ai toujours une réaction. L'auditrice était par ailleurs très mesurée, donc quand on parle de gazer, je suis désolé, c'est pas l'expression adéquate.
Vous parlez hors du cadre légal. Ce que nous disent aussi nos auditeurs, est-ce que quand on a des hommes qui ne sont pas identifiés comme policiers, qui n'ont pas de numéro de matricule, etc., qui sont là et qui frappent des manifestants, ils sont dans le cadre légal ou pas?
Vous savez qu'on a installé ces fameux bataillons parce que la doctrine policière a dû évoluer considérablement. Rendez-vous compte quand même qu'il y en a qui sont allés massacrer notre Arc de Triomphe. Au-delà du respect que j'ai pour le général Soublet, moi j'ai de la famille militaire, sapeurs-pompiers et tout ça, ça nous appartient à tous, et qu'on puisse avoir des gens qui font ça, donc il a fallu adapter... Les doctrines policières. Et pour adapter les doctrines policières, il a fallu considérer ce que faisaient ces gens qu'on n'arrive pas à attraper, qui s'appellent les Black Blocs, et depuis les années 90, ont compris comment foutre le bazar partout.
Et qu'on n'arrive pas à arrêter.
Il fallait bien les arrêter, ces jeux-là.
On les a pas arrêtés, ceux-là.
On commence un peu à les contrarier. Moi, je suis même étonné que...
On n'arrive pas à les connaître.
Et donc, c'est de se dire, il a fallu envoyer, à la fois recueillir du renseignement, et permettre à certains qui sont formés à ça, et notamment les bacs, d'intervenir assez rapidement pour aller extraire.
Mais on les a pas arrêtés. Enfin, je sais pas.
Il y en a quelques-uns, mais
par rapport à la masse de ceux qui ont cassé, qui ont été les fauteurs de troubles, qui ont pété toutes les vitrines, qui étaient, on l'a vu quand même, des Black Blocs et qu'on a laissé faire. Même Castaner l'a dit à un moment, il a dit on a laissé faire.
Alors, on a laissé faire les Black Blocs au 1er mai de l'année dernière, surtout. Cette année, ils ont quand même pas mal ramassé, comme on dit vulgairement dans le jargon. C'est-à-dire qu'ils ont été, d'abord, on en connaît un certain nombre, ils ont été localisés, identifiés. La plupart d'entre eux ont été empêchés d'arriver jusqu'aux manifestations. Et ceux qui sont arrivés et qui ont commencé à bouger, ils ont été pris en compte par, en effet, des policiers qui étaient en civil. Et je suis toujours étonné qu'on se pose la question de la légitimité des policiers qui agissent en civil par rapport à des hordes de citoyens qui font n'importe quoi, qui sont hors du cadre légal, et eux, on ne se pose pas la question de savoir s'ils sont hors du cadre légal. Donc arrêtons d'essayer de mettre en difficulté les policiers qui font leur métier, même si ils sont en civil et ils le font parce qu'ils ont reçu des ordres et que c'est tout à fait normal, il n'y a pas de sujet. Et comme ça, tout le monde sera content et on restera dans un pays et un état de droit. Je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de méprise. J'ai parlé de violence. En fait, il s'agit de la force légitime. Et la force légitime appartient toujours aux policiers. Quelles que soient les circonstances.
À l'État.
Voilà. Et le policier et le gendarme tiennent leur force légitime de la loi et de l'autorité de l'État. Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question de la nature de l'autorité de l'État depuis un certain temps dans notre pays. Mais pour autant, ça existe. Et donc, dans ces manifestations, elles s'expriment sous la forme parfois de comportements qui sont peut-être en dehors ou un peu au-delà de ce qu'on voit habituellement. Mais il faut pas évacuer le contexte. Le contexte est très, très compliqué parce que le comportement individuel, quand on est dans un moment de violence, parce que ce sont des moments de violence, parfois, qui que ce soit, je l'ai expérimenté personnellement, quand on est dans ces moments de violence, eh bien, on va au-delà de ce que habituellement on dit ou on fait. C'est comme ça, ce sont des phénomènes psychologiques très compliqués à comprendre, mais il faut aussi se mettre aussi à la place des policiers qui en prennent, et des gendarmes qui en prennent plein la figure et qui, à un moment donné, doivent faire leur métier.
Un procès n'est pas encore... Les personnes qui sont en procès, ils ne sont pas condamnés.
Ils ne sont pas encore condamnés.
Ce qui a fait du mal, je pense.
Non, il y a une instruction.
Ce qui a fait beaucoup de mal, c'est l'exemple de l'affaire Benalla. Parce que ça fait des mois, ça fait plus d'un an que ça dure. Il n'est toujours pas jugé. Et le coffre qui a disparu. Donc, si vous voulez, l'exemple vient d'en haut. Et là, vraiment...
C'est l'honneur de la police, juste pour conclure en disant, c'est l'honneur de la police pour reprendre
pas
les mots de...
Non, il n'était pas policier en plus.
C'est l'honneur de la police d'accepter ça. Je veux dire, rappelons ce qu'avait dit Maurice Grimaud en 1968, qui disait, on ne frappe pas un manifestant à terre. C'est l'honneur de la police d'accepter aussi ça et de montrer que derrière les centaines de milliers d'interventions qui auront eu lieu, si jamais on cumule, eh bien, il n'y aura quasiment rien par rapport aux vraies violences de gens qui, en face, ont fait quoi ? Cramer des immeubles, ont fait des blessés, ont tué 11 personnes et ont essayé de déstabiliser la République et ont donné une image pitoyable des plus beaux endroits de la France, qui fait que le tourisme, on le voit bien en ce moment, et je ne dirais pas en chute libre, je ne vais pas exagérer, mais il y a moins de touristes.
Mais sans justifier ce que tu viens de dire, que je partage, c'est que quand même on a poussé des gens qui travaillent et qui n'arrivent pas à finir la fin de mois en leur promettant des choses dans les 3 mois, puis dans les 6 mois, et puis il n'y a toujours rien. Donc quand on pousse les gens qui honnêtement travaillent mais n'arrivent pas à s'en sortir, je dis, ça ne justifie pas la violence, on est bien d'accord.
Mais c'est pas le boulot du policier, c'est dangereux.
Voilà. Et ça peut se traduire électoralement, pas du tout dans le sens, dans l'intérêt des gens.
Jean-Luc, le major V, qui en est contraint à faire des excuses à cette dame qui était dans un endroit, manifestation illégale, qui ne se bouge pas alors qu'il y a eu une sommation de bouger, et ce pauvre gars qui paye la retraite de cette dame parce que ce sont les actifs qui payent les pensions des retraités, il est obligé de s'excuser pour dire « je suis excusé de l'avoir poussé avec mes... » Voilà.
Allez, voilà, on continue, 0826-300-300. À tout de suite.
Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous jusqu'à midi, je pense qu'on va traiter qu'un seul sujet aujourd'hui. Vous êtes nombreux à réagir. Je suis avec Jean-Luc Touly, président du FRIC, Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink, Eric July, président fondateur de Clay, et Bertrand Soublet, ancien général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France. Alors vous réagissez, vous êtes très énervé parce que vous êtes nombreux à être gilets jaunes et à dire nous, on a vu des violences. Alors on l'a dit, on l'a exprimé. Il y a des avis qui s'expriment. Je vous donne la parole. Également, il n'y a pas qu'un seul son de cloche. La force légitime, nous dit Patricia, être frappé par derrière quelqu'un qui n'est pas dangereux. C'est votre expérience qui parle. Facile, la force légitime, c'est à vomir. Heureusement qu'on a les lives. Oui, il y a des lives. La loi anti-casseurs s'applique-t-elle aussi aux policiers cagoulés? Toff nous dit, c'est navrant d'entendre un seul son de cloche qui défend uniquement les oppresseurs. Non, on l'a dit tout à l'heure. Et j'ai dit moi-même qu'il ne fallait pas justement globaliser et faire d'amalgame. Et vous êtes là pour témoigner. Daphné nous dit, les Black Blocs sont rentrés tranquilles. Demandez à Didier Maistre, effectivement, qui fait des vidéos. C'est vrai qu'on a vu des gens cassés, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, des Black Blocs qui n'ont pas été arrêtés. Le citoyen doit-il se laisser manipuler? Bref, continuer à manifester, dit Jacques, pacifiquement. À Marseille, on manifeste tranquillement dans le centre-ville et quand les forces de l'ordre nous empêchent de prendre une direction, eh ben, on en prend une autre et ça se passe bien. Il y a le problème également aussi qui est évoqué de la formation des policiers et ça, les syndicats de police le disent. On a Christian en ligne avec nous. Bonjour Christian.
Bonjour à vous tous.
On vous écoute.
Évidemment, moi je vous appelle car j'entends certaines choses de vos collaborateurs, enfin en tout cas
les intervenants, oui.
Oui, c'est une honte. Mais vraiment, il y en a qui n'ont pas honte, n'est-ce pas, de soutenir en disant non. Enfin, la police, c'est légitime, bien sûr. Vous avez vu les milliers de vidéos. C'est pas des trucs tournés à l'envers. Je veux dire, c'est vraiment des faits, n'est-ce pas. Le droit de demander le droit d'aller manifester. D'accord. Il faut regarder les droits de l'homme. Vous regarderez, il y a certains articles qui vous permettent de voir autre chose. Et puis c'est pas parce que on n'a pas le droit de manifester dans une rue qu'il faut aller massacrer les gens. Je trouve ça honteux. J'écoute ça depuis le début, là. Il y a des gens, ils ont même... Mais franchement, d'où ils viennent, ces gens-là? C'est incroyable. On a massacré des gens. Les Black Blocs, les Black Blocs. Mais ça fait longtemps qu'on les connaît, vous savez. Ça fait longtemps qu'ils pourraient arrêter. Ça arrange peut-être d'autres gens, j'ai l'impression. Donc il faut arrêter de nous faire le coup de la République, les machins des droits. On n'est pas des idiots, n'est-ce pas?
Mais vous, c'est qui... Pardon, Christian, votre adversaire, c'est qui? Sont les policiers? C'est le gouvernement, parce que quand au début de l'émission, attendez, laissez-moi finir, on vous dit les policiers, ils sont là pour maintenir l'ordre. Voilà, est-ce que ce sont eux vos adversaires?
Alors qui maintiennent l'ordre et qui ne fassent pas ce que nous on voit sur les vidéos, puisque c'est pas la télévision qui le prenne en machin, à part vous qui en parlez très souvent, on est reconnaissant de ça, hein, dans votre émission. C'est une des seules radios où il y a à peu près ça, où on voit les vérités, n'est-ce pas? Et quand vous entendez des gens qui sont invités chez vous et qui sont droits dans leurs bottes, la honte de la République, l'Arc de Triomphe, le mec avec une porte cassée, on a attaqué la République. Oui, on sait nous prendre pour des imbéciles. On n'est pas si con que ça. Il faut s'arrêter. On n'est plus dans les anciens temps de 1936 où on a fait prendre de la guerre aux gens avec des cartes rouges, n'est-ce pas? On est un peu plus intelligent que ça. Donc moi, je suis gilet jaune. Je soutiens et je reste dans le maintien de il faut manifester pour que des gens puissent se nourrir normalement, qu'on puisse établir des vérités. Je suis pour le RIC et je pense que le peu de gilets jaunes qu'il y aura, eh ben, ils continueront. Et arrêtons le massacre. Les gens, j'entends monsieur dire une chose très très bizarre. Il dit oui, bon, ben, les flics déguisés en civils, ce sont de je sais plus quoi. Ben non, parce que dans les autres pays, on appelle ça des milices, n'est-ce pas? Si on faisait un reportage ailleurs, on les appellerait des milices. Donc il y a des choses qui vont pas. Macron a tapé sur son peuple et ça l'arrange bien, croyez-moi, qui est de la violence. Mais je crois qu'il ne faut pas y avoir de violence. Il y a eu des manifestations sans violence, n'est-ce pas?
Mais il y a
qu'est-ce
eu...
Qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Comment on ne peut pas arrêter les Black Blocs? Il faut arrêter de nous faire rire. Ça
monsieur, d'accord. On peut vous poser une question?
Alors, attendez, Jackie Isabello a une question à vous poser.
On peut vous poser une question, parce que moi je ne suis pas un politique, donc je ne vais pas adoucir mon discours pour vous faire plaisir. Vous ne voterez pas pour moi. Est-ce que vous avez une vidéo où il y a une manifestation totalement pacifique et vous avez vu des centaines de soldats en bleu casqués qui ont tapé sur les gens de manière illégitime? Est-ce que vous l'avez, cette vidéo? Parce que généralement, moi je connais bien tous ces sujets-là. L'Arc de Triomphe, non, vous touchez pas à mon Arc de Triomphe, je suis désolé, vous n'y touchez pas, et moi je donnerai ma vie pour le défendre. Eh bien, donnez des vidéos où vous avez vu ces soi-disant hommes casqués, ces milices, vous attaquer directement. Si demain vous êtes agressé par un type, vous allez aller où pour vous faire justice? Est-ce qu'ils vont vous recevoir dans les commissariats ou dans les gendarmeries pour prendre votre plainte et vous défendre? Oui, ils vont faire ça, comme ils l'ont fait des centaines de fois, voilà.
Alors, juste un mot, oui. Christian, pour répondre, vous en avez des vidéos comme celle-là?
Non, mais ça tient pas debout. Je connais le discours depuis le départ de votre émission. Ce monsieur, ça tient pas debout. On sait ce qu'on écoute et on sait ce qu'on voit. Ça, je lui réponds.
Alors, merci Christian. Éric Joly.
Je suis désolé, mais je voudrais revenir quand même sur les points. Premier point, le droit de manifester existe en France. Ça fait 7 mois que tous les samedis, il y a des manifestations, il y a peu de pays où ça se passe de cette manière. Et d'autre part, ce droit de manifester, il doit être concilié avec le droit des commerçants à exercer leur activité, avec le droit de ceux qui n'ont pas envie de manifester, d'aller se promener sans être entravés. Donc, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Deuxièmement, à partir du moment où une manifestation n'est pas déclarée à l'avance, elle est illégale, et donc le maintien de l'ordre, c'est de l'empêcher. Et donc d'avoir déjà laissé se dérouler des manifestations illégales, c'est déjà un pas qui a été fait par le gouvernement. Et pardonnez-moi, mais ça aurait pu être pire dans la voie de l'interdiction. Troisièmement, la police, l'État est en charge du maintien de l'ordre et de la force légitime. Quand elle est employée de manière illégitime, ça devient une violence et ça doit être effectivement sanctionné professionnellement ou par les tribunaux. puis voilà. Après, dire que 7 mois de manifestation qui se sont traduits naturellement, on ne peut que déplorer des mutilations. On peut se poser, moi j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, des questions sur les stratégies de maintien de l'ordre, se comparer avec ce qui se fait dans d'autres pays et voir s'il n'y a des adaptations à faire. Ça, personne ne peut contester cela. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les policiers ont failli n'ont pas respecté leur déontologie et leurs obligations.
Moi j'entends ce que dit Christian, en partie je suis d'accord, en partie
je rappelle que vous êtes gilet jaune, hein, c'était pas
là où je suis pas d'accord, mais il l'a dit lui-même. Je dis pas qu'il y a un piège, qu'il y a un complot, je dis pas ça, mais je dis que la stratégie de faire pourrir ce mouvement, l'attitude de Monsieur Macron avec les 3 mois de débat, de grand débat bidon, fait qu'on n'a toujours pas répondu. Et ce qu'on voit, malheureusement, on avait raison, nous, de dire qu'il faut une traduction politique, mais au résultat, on n'avait pas raison, vu le résultat, parce que M. Macron, même s'il est légèrement deuxième, il a gagné son pari. Parce qu'en fait, quand en 2022, il va se retrouver devant Marine Le Pen. Donc, pour les Gilets jaunes, il n'y a pas de traduction politique concrète.
On aurait pu continuer longtemps.
Moi, je respecte l'opinion de monsieur, de Christian. En revanche, quand je l'entends parler de manière, je veux dire, un peu démesurée, de massacre, je ne pense pas qu'il y ait eu de massacre dans notre pays. Je ne sais pas si ce monsieur sait ce que c'est un massacre. Moi, j'ai vécu une guerre civile à l'étranger. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans notre pays. Je crois qu'il faut quand même rester mesuré.
Alors, on vous conseille, Mickaël, vous conseille, Jackie, d'aller voir le site Allo Place Beauvau. Vous pourrez trouver des vidéos. Je vous signale à lire dans Le Monde. Merci. Alors, c'est dans le prolongement de notre débat sur l'affaire Benalla. La journaliste Ariane Chemin et Louis Dreyfus, donc le directeur de l'application du Monde, ont été interrogés par la DGSI au 4e sous-sol, néon dans les yeux, à côté d'une paire de menottes. L'article du Monde est absolument glaçant sur la manière dont ces deux personnes ont été entendues. Elles ont gardé le silence, mais visiblement, il y a eu de l'intimidation. Et tout a été fait pour les faire craquer.
Bravo, Ariane.
Et Ariane Chemin n'a
rien dit. Si c'est le cas, c'est scandaleux.
C'est ce que rapporte Marilyn Beaumart, qui est journaliste au Monde, et c'est à lire dans Le Monde qui paraît aujourd'hui sur Internet.
C'est un autre sujet, il ne faut pas confondre.
Non, mais c'est si, parce que c'est
dans
le.
Il ne faut pas globalement donner l'image de la police en disant et ils massacrent d'un côté.
Non, mais ce n'est pas l'image de la police, c'est l'image. C'est ce qui ressort, en tout cas, de ce que ressentent beaucoup de nos auditeurs. C'est quand même un état de plus en plus répressif. Même si j'entends ce que dit le général Soublet.
Et la répression n'est pas décidée par les policiers,
on se retrouve lundi. Très bon week-end à tous.